VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Mali, le président français Emmanuel Macron est en visite à Gao, siège d'une importante base militaire française dans le nord du pays. Il a été accueilli à son arrivée sur place par son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le premier déplacement hors d'Europe du nouveau chef de l'État français depuis sa prise de fonction dimanche. Et il a choisi Gao, pivot de l'opération française Barkhane contre les djihadistes au Sahel, qui mobilise 4000 soldats dans 5 pays. Les Maliens ont un message au président Macron concernant la présence militaire française au Mali. On les écoute.
Moi, je m'appelle Bintou Traoré. Pour moi, la présence de la force Barkhane au Mali, plus précieusement au nord, n'a pas sa raison d'être, quoi. Ils sont venus pour gérer la crise. Jusqu'à présent, rien n'a bougé. La force malienne n'est pas jusqu'à présent au Kidal. Et ils sont venus pour instaurer la paix. Cette paix-là, on est loin, très loin de l'atteindre. La France voit son intérêt. La France ne veut pas que Kidal soit libéré. La France ne veut pas que la force malienne soit à Kidal. Peut-être que ça peut compromettre ceux qu'ils visent là-bas.
Alassane Cissé, observateur de la scène, les premières heures de l'occupation des régions d'Ondo du Mali, vraiment l'intervention des forces françaises est à vraiment féliciter. Mais après ça, on a remarqué que vraiment la force Barkhane au niveau du nord, il y a toujours des attaques, pourtant ils sont présents sur le terrain, mais moi je vois que vraiment ça n'a pas d'impact sur l'insécurité qui est en train de régner, qui est en train de gangréner au niveau du nord là-bas.
Propos recueillis par notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Le président Macron passe environ 6 heures sur place avec un programme très chargé, comprenant notamment des consultations avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta sur la lutte contre le terrorisme, le dossier sahélien et la difficile mise en œuvre des accords de paix de 2015 qui visent à régler la crise au Mali. Au Niger, des mesures viennent d'entrer en vigueur dans plusieurs zones des régions de Tillabéri et de Taroua dans l'ouest du pays en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. Une quinzaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation des voitures et motos est interdite dans ces zones entre 20h du soir et 6h30 du matin. Ces mesures, pourtant salutaires pour la sécurité, ont un revers, selon Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement.
Le Niger actuellement traverse une crise alimentaire dans beaucoup de régions et le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects-là quand on appuie ces mesures d'état d'urgence dans ces régions. Oui, elles sont importantes pour la sécurité, mais en amont, quand on prend ce genre de mesures, on informe les populations, il faut les aider, il faut leur apporter du soutien. Comme ça s'est passé par le passé dans la région d'Agadez et aussi à Difa, il faudrait que le gouvernement, les autorités nigériennes fassent un effort pour appuyer ces populations qui, aujourd'hui, n'ont plus de marché, les boutiques sont fermées, la circulation est interdite dans ces régions-là, c'est des zones frontalières avec des va-et-vient le long de ces frontières-là, ça permet un échange économique avec certains pays frontaliers. Donc, le gouvernement n'a pas pris de mesures idoines à atténuer les souffrances des populations face aux conséquences de cet état d'urgence-là.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement au Niger. Et toujours concernant le Niger, 40 migrants ouest-africains abandonnés par leurs passeurs sur la route vers l'Europe via la Libye ont été secourus en début de semaine par l'armée nigérienne en plein désert dans le nord du pays. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi une source sécurité à l'AFP. Ces clandestins, dont des femmes, sont des ressortissants de la Gambie, du Nigeria, de la Guinée, du Sénégal et du Niger. Ils ont raconté aux militaires qui les ont retrouvés à 60 km du village de Séguidine que leur passeur leur avait dit qu'il allait chercher de l'eau et il n'est jamais revenu. Pour lutter contre les trafiquants, Niamey a voté en 2015 une loi très sévère pénalisant leurs crimes et les rendant passibles de peines allant jusqu'à 30 ans de prison. Mais ce durcissement législatif est apparemment loin de décourager passeurs et migrants. RDC, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé qu'un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait très rapidement être testé dans la zone du nord-est du pays, touchée par une épidémie de cette maladie hémorragique. L'OMS dit attendre le feu vert de Kinshasa. Solange Niamoulissa.
Il n'existe pas pour l'instant de vaccin homologué pour se protéger contre le virus Ebola. Selon l'OMS, il existe un vaccin candidat prometteur dont les stocks pourraient être acheminés en quelques jours en RDC si Kinshasa l'autorise. Dr Peter Salama, directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, a déclaré que les préparatifs sont en cours. Il pourrait éventuellement lancer une campagne de vaccination si toutes les conditions sont remplies. Le pays fait face à sa 8e épidémie d'Ebola depuis 1976. La maladie a été détectée dans une zone isolée du Bas-Ouélé. Selon l'OMS, 2 cas ont été confirmés, 18 autres sont suspects et 3 personnes sont mortes. Il s'agit de la première flambée depuis l'épidémie d'Ebola qui avait fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés dans 3 pays en Afrique de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité américaine, le président des États-Unis Donald Trump commence demain son premier voyage à l'étranger. Un périple de 9 jours au Proche-Orient et en Europe. Pour ce qui concerne le Moyen-Orient, c'est une rupture nette avec l'approche de son prédécesseur Barack Obama. La première escale est l'Arabie Saoudite où le président Trump va tenter de redynamiser la coalition musulmane sunnite contre l'Iran. Lionel Gaïma.
Durant sa campagne, Donald Trump se plaignait de l'Arabie Saoudite. Il a même été accusé d'islamophobie après ses menaces d'interdire l'entrée aux États-Unis des voyageurs venant de ce pays à majorité musulmane. Maintenant, il a choisi Riyad comme première étape symbolique de son premier voyage à l'étranger. L'Arabie Saoudite abrite les deux lieux les plus saints de l'islam et c'est là-bas où nous allons commencer à bâtir une nouvelle base de coopération et de soutien avec nos alliés musulmans pour combattre l'extrémisme, le terrorisme et la violence. Pour M. Trump, c'est une chance de se défaire de son image anti-musulmane. À Riyad, il va s'adresser à des rois, émirs et présidents de 54 pays musulmans sunnites. Son message, les États-Unis seront à vos côtés contre un pouvoir considéré hostile dans la région, c'est-à-dire l'Iran. Le général McMaster, conseiller à la sécurité nationale.
He will encourage our Arab and Muslim partners.
Nous allons encourager nos partenaires arabes et musulmans à prendre des mesures fortes pour promouvoir la paix et confronter ceux comme le groupe État islamique, Al-Qaïda, l'Iran et le régime de Bachar al-Assad qui perpétuent le chaos et la violence qui ont amené autant de souffrances à travers le monde musulman et au-delà. Les associations de défense des droits de l'homme ont critiqué Donald Trump pour avoir reçu des leaders musulmans autoritaires comme l'Égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le Turc Recep Tayyip Erdogan. C'est une rupture brutale avec l'approche de son prédécesseur Barack Obama qui avait pris ses distances des leaders sunnites à cause des questions des droits de l'homme. Robert Sutloff, directeur exécutif de l'Institut du Proche-Orient à Washington. Quand il a été au Caire, il a fait un grand discours, non pas vers les leaders arabes, mais directement vers les populations du Proche-Orient. Donald Trump a une approche différente. Il va s'adresser aux dirigeants avec qui il peut traiter directement. C'est son choix. Ce que M. Trump va leur dire, c'est justement ce que veulent entendre les leaders sunnites, le Saoudien Ali Shababi, expert à la Fondation arabe à Washington. Il va envoyer un message disant qu'il comprend que les alliés musulmans, les musulmans alliés de l'Amérique, sont la première ligne de défense contre le terrorisme pour empêcher l'Iran d'être belliqueuse et profiter davantage du chaos au Proche-Orient pour faire avancer ses ambitions politiques.
And taking advantage of chaos in the Middle East to further her own political ambitions.
Après Riyad, Donald Trump ira en Israël, puis au Vatican. Il se rendra au sommet de l'OTAN à Bruxelles et au sommet du G7 à Catane, en Sicile, avant de rentrer à Washington.
Le président soudanais Omar al-Béchir, sous le coup de mandat d'arrêt international pour génocide, a décidé de ne pas se rendre au sommet des dirigeants arabes et musulmans avec le président Donald Trump à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'agence de presse soudanaise Suna. Le président Omar al-Béchir s'est excusé auprès du roi Salman d'Arabie Saoudite de ne pas pouvoir assister au sommet de Riyad, a précisé l'agence en citant un communiqué de la présidence soudanaise. Le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Gandour, avait annoncé mercredi que le président Béchir se rendrait bien dans la capitale saoudienne, mais les États-Unis avaient souligné le même jour leur opposition à la présence du leader soudanais. Et pour terminer, en Iran, les électeurs se rendent aux urnes ce vendredi dans un scrutin crucial pour le président sortant modéré, Hassan Rouhani, qui brigue un second mandat pour poursuivre sa politique d'ouverture au monde. Son principal adversaire est Ebrahim Raisi, un religieux conservateur proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.